Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 29 septembre. Les professionnels du médico-social ont manifesté hier à Lyon. La ville de Lyon a trouvé une solution de relogement pour les mineurs isolés qui vivaient dans un square à la Croix-Rousse depuis cet été. Un incident signalé à l'autorité de sûreté nucléaire, cela ne concerne pas une centrale mais un produit. Explication dans le courant de cette édition. La surpopulation carcérale, l'ordre des avocats du barreau de Lyon rappelle que des solutions sont possibles de manière à désengorger les prisons. Le 82e salon HLM se tient à Eurexpo jusqu'à ce soir, alors que les bailleurs sociaux font face à une hausse exponentielle de leurs factures énergétiques. Plusieurs acteurs proposent des solutions. L'entreprise Ista propose par exemple de généraliser la répartition équitable des frais de chauffage, ce qui entraîne, selon une enquête de l'ADEME, une baisse des consommations d'environ 15%. Reportage et interview dans ce quart d'heure lyonnais. La métropole de Lyon a inauguré hier une centrale de production de froid bas carbone à Gerland. À quoi ça sert et comment ça marche? Explication dans ce quart d'heure lyonnais. À la découverte du pharaon oublié, nouvelle grande expo Tempora à la Sucrière de Lyon, ça commence aujourd'hui.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les professionnels du médico-social, des présidents et directeurs d'associations ou encore des personnes accompagnées et leurs familles se sont mobilisés hier partout en France. À Lyon, le rendez-vous était fixé quai Jules Courmont au niveau de l'Hôtel Dieu. 1400 personnes selon la police, 1800 selon les organisateurs ont défilé jusqu'à la préfecture. La marche des métiers fantômes, objectif réclamé des revalorisations salariales pour tous ces métiers prenant en charge les personnes fragiles et vulnérables. Les syndicats des salariés appellent à leur tour à la mobilisation ce jeudi pour l'augmentation des salaires. La ville de Lyon se mobilise pour apporter une solution de relogement aux mineurs isolés en recours qui vivaient dans le square du général Gustave Ferrier à la Croix-Rousse depuis cet été. La municipalité a ouvert un gymnase dans le 8e arrondissement pour mettre à l'abri ces jeunes migrants. Ils avaient débarqué après l'évacuation du squat Le Chemineur et l'incendie du squat chez Gemma sur les pentes de la Croix-Rousse. Les collectifs s'étaient mobilisés pour réclamer leur relogement. Ils seront accompagnés sur place par l'association L'Asso qui œuvre pour l'inclusion et l'innovation sociale.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Un incident signalé à l'autorité de sûreté nucléaire. Assurez-vous, cela ne concerne pas une centrale, mais un simple produit. Le service de médecine nucléaire des hôpitaux Est de Bron gère chaque jour la prise en charge d'une quarantaine de patients venus passer un examen diagnostique, ce qui nécessite de la rigueur pour la gestion des seringues contenant des produits radioactifs. Préparées le jour même, les seringues contenant ces produits sont transmises de la pharmacie au service par un monte-charge. Une seringue contenant un médicament dont la radioactivité est éliminée en 6 heures a été retrouvé dans les poubelles sécurisées. L'hypothèse d'un vol par quelqu'un de l'extérieur a été envisagée, les patients pouvant être accompagnés. L'autorité de sûreté nucléaire a classé l'incident au niveau 1 sur une échelle de 7. L'activité résiduelle était négligeable dans la seringue le jour de la déclaration de l'événement. Il ne subsiste aucun risque d'exposition au rayonnement ionisant pour les personnels susceptibles de se tenir à proximité. Une réglementation plus stricte de l'accès à cette zone devrait toutefois être mise en place. 71 819 détenus en France en 2022, malgré une capacité d'accueil limitée à seulement 60 719 places. Une surpopulation carcérale qui, selon l'ordre des avocats du barreau de Lyon, est en très forte augmentation depuis la fin de la crise sanitaire. Le Conseil de l'ordre a rédigé une motion visant à alerter sur la situation critique du nombre de détenus en France. Le barreau de Lyon rappelle des solutions possibles de manière à désengorger les prisons, comme la détention à domicile ou le bracelet électronique pour les courtes peines, ce qui pourrait limiter la venue de nouveaux détenus dans les centres pénitentiaires.
Lyon Demain, idée en partage.
Le 82e salon HLM se tient à Eurexpo jusqu'à ce soir.
À l'heure où la sobriété énergétique est de mise, propriétaires ou locataires apprennent les bonnes pratiques comme abaisser la température de son appartement ou envisager des travaux d'isolation. Mais il existe aussi des solutions pour une répartition plus équitable de ces fameux frais de chauffage dont on dit qu'ils vont exploser cet hiver. Bonjour Samia Schnifen.
Bonjour.
Vous dirigez l'agence de Lyon de ISTA. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter cette entreprise, ISTA ?
ISTA, c'est le leader du comptage d'eau froide, d'eau chaude et de chaleur, donc de chauffage, en France.
Comment peut-on répartir alors ces fameux frais de chauffage, cette répartition au réel, comment ça marche ? Apparemment, il y a encore beaucoup d'appartements qui ne sont pas équipés. Alors, à qui ça s'adresse ? Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Effectivement, donc nous installons des boîtiers de comptage à l'intérieur des appartements, donc des répartiteurs de frais de chauffage, que ce soit dans l'habitat collectif social ou dans les copropriétés privées. Grâce à ces appareils, chacun peut connaître et maîtriser sa consommation et agir pour réduire ses factures de chauffage jusqu'à 25% d'économie selon l'étude de l'ADEME, d'autant plus important en cette période de sobriété énergétique.
Techniquement, comment ça se passe ?
Nos techniciens interviennent pour le compte donc de bailleurs sociaux ou de syndics de copropriété afin d'équiper les logements. Ce sont des petits boîtiers, des répartiteurs de frais de chauffage installés sur les radiateurs, accompagnés en règle générale de robinets thermostatiques pour pouvoir réguler la température du radiateur et permettre ainsi de répartir les charges au plus juste et que chacun des copropriétaires ou des occupants paye sa propre consommation d'énergie et non pas une répartition en vingtième, de manière à pouvoir maîtriser ses coûts et de pouvoir agir grâce à ses factures et donc à ses robinets thermostatiques à la réduction de chauffage.
Est-ce que c'est un dispositif qui est obligatoire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une loi qui impose ces équipements ?
Tout à fait. Plusieurs décrets, plusieurs lois sont parus. Donc, où ce dispositif, au vu et surtout, comme je disais tout à l'heure, sur cette période de sobriété énergétique, est rendu obligatoire. Et puis, c'est tout à l'avantage et du bailleur pour pouvoir maîtriser les charges, mais également des occupants pour pouvoir réduire leurs factures.
Est-ce que c'est amortissable facilement ? Parce qu'il faut quand même investir dans ce matériel, dans la mise en place de ce matériel. On peut estimer que quoi, en un an, 5 ans, 10 ans, on peut avoir amorti cet investissement supplémentaire ?
Alors, les répartiteurs de frais de chauffage sont amortis dès la première année.
Surtout en cette période ?
Surtout en cette période.
Ça s'applique aussi bien à l'eau chaude, à l'eau froide, à tous les flux ?
L'eau chaude, l'eau froide par le biais de compteurs et le chauffage par le biais de répartiteurs de frais de chauffage ou dans certains cas de figure, des compteurs d'énergie thermique.
Une fois que l'équipement est installé, on a quoi ? On a accès à une plateforme pour contrôler tout ça ?
Une fois que les appareils sont équipés, dans un premier temps, au moment de l'équipement de ces appareils et donc l'intervention dans les logements, nous avons des techniciens qui sont formés pour sensibiliser les occupants aux éco-gestes, donc via des brochures, mais il y a également, nous avons des services digitaux qui sont mis à la disposition des occupants, des syndics, mais également des bailleurs. Ils ont accès en permanence à nos services digitaux sur Internet, leur permettant ainsi de suivre leur consommation quotidienne avec par le biais des alertes en cas de surconsommation, des alertes de fuite, une tendance moyenne de consommation et plus encore. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur www.ista.fr pour pouvoir vous apercevoir de tous les outils qu'on peut vous mettre à disposition.
Vous me disiez tout à l'heure que seulement 40% des appartements étaient équipés. Ça veut dire quoi ? Pourquoi le processus ne se déploie pas plus vite en France ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord de l'Europe, en Allemagne et les autres pays, ils sont quasi un équipement à 100%. La France a pris ce sujet, mais beaucoup d'immeubles étant restés en rénovation, en isolation, avec des travaux d'isolation. C'est pour ça que du coup, le taux d'équipement n'est pas encore complet actuellement, mais là, on sent la tendance et le frémissement, avec surtout, comme je disais tout à l'heure, l'évolution des coûts d'énergie. Et donc, c'est lancé pour équiper tous les logements habitat collectif sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Parce que cet équipement doit forcément intervenir après l'isolation du bâtiment.
C'est en complément.
ISTA accompagne une trentaine de bailleurs, ce qui représente 150 000 appareils connectés. ISTA assure la formation de ses salariés aux éco-gestes. Pour se renseigner, le site internet ista.com. La métropole de Lyon a inauguré une centrale de production de froid bas carbone à Gerland. En pompant l'eau du Rhône, la centrale alimente un réseau de froid de 4,2 km. Ce système distribue de l'eau à 5 degrés aux bâtiments raccordés, comme celui du Loup Rugby, l'agence de sécurité sanitaire ou encore le pôle de formation Agrapol. Cette installation va permettre de climatiser quelques 300 000 m² de bâtiments tertiaires. Objectif, lutter contre les étés caniculaires tout en garantissant la sobriété énergétique.
Lyon demain, découverte.
À la découverte du pharaon oublié, nouvelle grande expo au Tempora, la Sucrière de Lyon. Ce pharaon est devenu le plus célèbre de tous, même s'il n'a vécu que 18 ans. Sa tombe n'a été découverte qu'en novembre 1922, il y a donc tout juste un siècle, par un égyptologue britannique, Howard Carter. L'exposition retrace et explique cette découverte historique, le contexte de l'époque, l'histoire de ce jeune pharaon. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Cédric Moulard, directeur d'exposition itinérante chez Tempora.
Le parti pris dans cette exposition, c'est vraiment de découvrir un parcours narratif et pédagogique qui fait la part belle à l'immersion, et l'immersion à travers les décors. C'est-à-dire que Europa Expo, qui sont les concepteurs de l'exposition, ont vraiment mis à cœur de reconstituer certains décors sur une fondation scientifique très forte. Et donc on peut par exemple se déplacer dans ce qui aurait pu être la chambre de Tankhamon quand il était jeune à Amarna. On peut découvrir l'atelier de Toutmose, qui est le sculpteur qui a fait le fameux buste de Nefertiti. Et on peut évidemment découvrir le tombeau de Tankhamon, tel que Howard Carter l'a découvert en 1922, et qui lui fit dire, quand Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ? Je vois des merveilles. »
Ça va jusqu'aux moisissures, il paraît.
Exactement, exactement. On a vraiment reconstitué jusqu'aux moisissures pour vraiment donner cette impression de réalisme. Et ça, on l'a vraiment travaillé grâce à un restaurateur qui s'appelle Uctavier, qui a supervisé cette reconstitution. Et on a même été rechercher les pigments et les techniques de l'époque pour pouvoir avoir un vrai souci du détail lors de la reproduction de ces peintures.
Alors cet archéologue qui a trouvé Tankhamon était un petit peu particulier.
Il était très particulier. En fait, c'est un archéologue qui vient à la base du dessin. Il a un père qui a fait du dessin animalier. Et il s'intéresse assez vite et commence à travailler avec des archéologues égyptiens, d'abord pour faire de la reconstitution par le dessin. Il va en fait être formé par des archéologues célèbres à une archéologie très minutieuse, comme on la connaît maintenant. C'est quelqu'un d'assez têtu, qui fait des bonnes relations, qui a des hauts et des bas, mais qui, grâce à un mécène qui est Lord Carnarvon, qui va croire en lui et en sa vision des choses, il va pousser jusqu'à découvrir et faire une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps, le fameux tombeau de Toutankhamon, le pharaon oublié.
Et il faut être déterminé pour la trouver, cette tombe.
Il fallait être déterminé. C'est des années de fouilles dans la vallée des rois. Après que Theodore Davis déclare qu'il n'y a plus rien à trouver dans la vallée des rois. Donc évidemment, beaucoup de gens le prennent pour un fou. Mais il est déterminé. Il a une forte fondation scientifique. Il a retrouvé des objets sur lesquels était indiqué le nom Toutankhamon. Donc il continue à creuser. Et finalement, en 1922, il découvre le tombeau.
Alors Toutankhamon, qui n'a vécu que 18 ans, c'est ça?
Exactement. 18 ou 19 ans. C'est en effet un pharaon qui est décédé très jeune, mais ça n'empêche qu'il grandit dans un moment où un moment très spécial pour l'Égypte. Son père Akhenaton lance une grande réforme culturelle et religieuse. Il vient à la suite de ça, et de nouveau, un des grands cadeaux que cette découverte nous a fait, c'est bien sûr les objets originaux, mais c'est aussi des objets qui nous ont permis de croiser les choses avec l'iconographie qu'on connaisse et de faire une énorme avancée sur la compréhension de la vie quotidienne des Égyptiens. Et c'est ça que l'exposition veut montrer. C'est vraiment aussi une plongée dans l'Égypte antique et dans la compréhension de la vie à l'époque.
Parce que dans cette tombe, il y a la momie, mais il y a aussi plein d'objets qu'on peut voir ici.
Exact. Il y a ici plus de 250 objets qui sont ce qu'on appelle des facsimilés, c'est-à-dire que ce sont des reproductions minutieuses des objets originaux qui sont au grand musée égyptien. Ce sont des objets donc, qui ont été reproduits par des artisans et qui sortent des ateliers du ministère des Antiquités égyptien, qui sont authentifiés par eux. Et on a eu à cœur de les remettre en place et de les reconstituer comme Howard Carter l'a découvert à l'ouverture de la tombe.
Alors, on découvre des objets, on découvre par la même voie également la vie quotidienne de l'époque. Qu'est-ce qu'on apprend ?
Exact. Alors, on apprend, par exemple, que Tankhamon aimait le vin. Il a été enterré avec des jarres de vin blanc, qui bien sûr s'est évaporé, mais vin blanc, vin sucré, vin liquoreux. On apprend qu'ils avaient des arcs composites qui pouvaient tirer des flèches jusqu'à 250 mètres. On apprend qu'il est enterré avec des objets qui lui tiennent à cœur, proches de lui, dont un objet avec une lame en fer qui a causé beaucoup de confusion parce que le fer n'était pas maîtrisé par l'Égypte à ce moment-là, et on a découvert en faisant des analyses que c'était du fer météoritique. Donc il y a plein de petites histoires autour de Tankhamon. Il y a évidemment plein de mythes et de légendes liées à Tankhamon, et l'exposition essaie de démystifier ça et vraiment de faire comprendre comment vivaient les pharaons et en même temps comment vivaient les Égyptiens à l'époque.
Il y a par exemple sa chambre, on voit des dessins au sol, des personnages.
Exactement,
sont ces personnages.
Exactement. On voit des personnages qui représentent en fait les ennemis du pharaon. Ce qui lui permet, quand il se lève le matin, la première chose qu'il fait, il marche sur ses ennemis.
Voilà, et cette exposition à la découverte du pharaon oublié est à découvrir jusqu'au 24 avril prochain. Un mot de sport, la Ligue nationale de basket a communiqué les budgets et masse salariale des clubs pro français, donc les clubs d'élite et de pro B. A noter l'explosion des finances de l'AS Monaco, dont le budget passe de 14 à 21 millions d'euros, soit une hausse de 47%. Jamais un club français n'avait présenté un tel budget, alors que son budget prévisionnel prévisionnelle affiche une certaine stabilité, 15,7 millions au lieu de 15 millions la saison dernière, 5% de hausse. L'ASVEL est du coup relégué au deuxième rang. Boulogne-le-Valois affiche le troisième budget, mais loin derrière les deux premiers clubs, avec 7,3 millions d'euros. Le budget moyen de l'élite se situe aux alentours de 6,8 millions. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, pour la dernière édition de la semaine.